Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Après une brillante carrière journalistique, il est devenu un véritable romancier. Son dernier roman, Crime parfait, paru en octobre 2022, est le troisième thriller de sa série policière, incluant La Louve aux abois et Enlèvement, dans lequel on retrouve un indomptable duo féminin, une sergente détective et une journaliste, pas étonnant, qui entraîne le lecteur dans des intrigues qui le tiennent en haleine du début à la fin. Un plaisir immense que d'accueillir Daniel Lessard. Rebonjour Daniel.
Rebonjour Armand.
Vous avez eu une belle semaine?
Excellente, oui. Même si je déteste l'hiver, je finis par y trouver un peu de plaisir. Je sors à tous les jours, marcher, pelleter, mais bon, je déteste l'hiver.
C'est une belle occasion quand même pour écrire.
Oui. Il n'y a pas de bonne ou de parfaite occasion pour écrire. T'écris quand ça te tente. Moi, j'ai décidé que quand j'ai commencé à écrire des romans, que je ne m'imposerais pas d'heure de tomber, puis de dire, bon, aujourd'hui, il faut que j'écrive 1000 mots, 2000 mots. Je me lève le matin, ça me tente, j'y vais. Ça peut me tenter à 3 heures l'après-midi. Quand c'est là, c'est là. Quand c'est pas là, c'est pas là. Parce que quand tu essaies d'écrire, tu n'en as pas envie. Là. C'est une perte de temps. C'est pas bon. C'est emmerdant, ennuyant. Et je passe à autre chose.
Daniel, on peut se poser la question, mais c'est tout, comme tout naturel. Un journaliste qui devient romancier, c'est un peu la poursuite de ce qu'il a fait d'une certaine manière, c'est-à-dire écrire.
Oui, mais c'est beaucoup, c'est deux écoles très différentes. Journalisme, c'est des textes courts, précis, sans adjectifs. Tu te fous un peu de la ponctuation parce qu'à la télé, ça paraît pas. Il s'agit de bien s'exprimer, de bien raconter. Le roman, et je l'ai découvert rapidement, et je te raconte une anecdote. Mon ami Michel Vastel, feu Michel Vastel, oui, qui était journaliste au Devoir, me disait tout le temps, on sait bien, toi, Lessard, tu fais le beau à la caméra, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec la qualité de ton français. Et Vastel était Vastel, on était de bons amis, ça ne me dérangeait pas. Mais il m'avait dit, Michel, un jour, je vais écrire un roman et tu seras mon premier lecteur. Il est malheureusement mort avant que le premier roman, Maggie, soit disponible.
Oui, en fait, ce premier roman a été publié en 2011, l'année de votre prise de retraite, si ma mémoire est fidèle.
Exact.
Et Maggie, c'est devenu une espèce de saga, parce qu'il y en a eu trois.
Quatre en tout,
n'est-ce pas?
Oui, oui.
Oui, le dernier étant le testament de Maggie.
Exactement, oui. Et Maggie, c'est parti d'une histoire vraie. Moi, mon grand-père était... des gens l'appelaient dictateur, mais c'était quelqu'un de très bien, quand même. Il était maire du village, il était préfet de comté, organisateur de Duplessis. Il était tout sauf marié, laissé ça au curé, avec qui il se chicanait souvent. Mais dans ses notes, parce qu'il prenait beaucoup de notes, il y avait beaucoup de choses, bon, pas intéressantes, des bouts de chemin et des clôtures mal placées, mais il y avait aussi toute la relation qu'il avait, forcément, avec un groupe de protestants qui vivaient dans notre village, dans une enclave qui s'appelait Cumberland Mills. Et la relation entre les deux était assez bonne. Ils ne se parlaient pas. Les catholiques ne parlaient pas français, les protestants ne parlaient pas. Les catholiques ne parlaient pas anglais, sauf mon grand-père un peu, qui avait travaillé pour la Brown Corporation. Et les protestants ne parlaient pas français. Quelques-uns baragouinaient un peu, mais ce n'était pas très avancé. Et il est arrivé un jour, ce qui est arrivé dans plusieurs villages où il y avait cohabitation protestante et catholique. Un catholique est tombé en amour avec une protestante ou vice-versa, et là, ça a fait un scandale. Dans la vraie vie, la catholique a fini par se suicider tellement les pressions du curé étaient fortes, tellement les gens lui disaient « Ah, les catholiques sont passés bon pour toi, tu sors avec un protestant et blablabla. » Et le premier roman, c'est ça. Moi, j'ai évité le suicide parce que j'aime pas ça, mais elle meurt quand même accidentellement dans le roman. Mais c'est toute la relation entre les catholiques et les protestants. Et c'est une relation intéressante, Armand. Tu sais, chez nous, ces gens-là auraient pu être japonais, allemand, américain, auraient pu parler n'importe quelle langue. Ce qui les rendait dangereux, c'était pas la langue qu'ils parlaient, c'était la religion, c'était des protestants. Oui. On avait peur des protestants. On n'avait pas le droit de passer devant la mitaine des protestants, c'est le nom qu'on donnait à la chapelle protestante. D'un côté de la rue, il y avait des protestants à Saint-Georges, d'autre côté, des catholiques qui se chicanaient tous les soirs. Chez nous, c'était plus civilisé. Mais c'est un truc que tu n'apprends pas dans les livres d'histoire. C'est ce que beaucoup aimé de tous les romans historiques que j'ai écrits.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, que ouais. Le socle de ces romans, c'est un socle historique. Ce sont des histoires qui s'alimentent à la réalité.
Exactement. Et tu te rends compte qu'à l'école, on te montrait bien des choses. Je connais l'histoire des Indiens, des missionnaires, mais très peu de ce qui s'est passé entre les catholiques et les protestants, la prohibition, plein de trucs importants. J'ai découvert Adélard Godbout, moi, comme un premier ministre très, très, très progressiste à travers mes recherches. Je pensais qu'Adélard Godbout, c'est une marionnette libérale, comme on l'avait déjà présenté. Et donc ça te force à faire beaucoup de recherches. Et à découvrir que la relation entre les catholiques et protestants était difficile un peu partout, que l'Église était très intolérante, et c'était vrai aussi pour les protestants qui étaient un peu méprisants en droit des catholiques, qui trouvaient trop asservis à l'Église, trop asservis au pape, qui croyaient à des affaires comme la Sainte Vierge, etc. Donc tout cet univers-là, c'est un peu l'univers de mes quatre premiers romans, la série Maggie. Il en sort, je l'envoie se promener à Boston à un moment donné, comme beaucoup de Canadiens français allaient à cette époque-là, oui. Etc. Donc j'ai beaucoup de plaisir avec des romans historiques. Il y en a un en particulier, Armand, qui s'appelle « La dalle des morts ».
On va y revenir, si vous voulez bien, Daniel, parce que vous nous proposez aussi un choix musical. J'aimerais qu'on puisse entendre votre première proposition, qui est une chanson qui a fait époque, composée par Mouffe et par Charlebois.
Ordinaire. Charlebois, c'est le meilleur, c'est le plus grand au Québec, de loin.
Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai Philippe dans la rue, mon grand public, je l'aurai pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. Le jour où moi j'en pourrai plus, il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire dans ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. Thank you. c'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas un chanteur populaire, j'ai rien d'un homme, mais
premier choix proposé par Daniel Lessard, notre invité cette semaine, Ordinaire, le plus grand, disiez-vous, de tout.
Ben, aujourd'hui, je préfère, j'écoute plus souvent Daniel Bélanger et plusieurs autres, mais Charles Lebois, ça a été pour moi, dès le début, là, de Lindbergh jusqu'à aujourd'hui, ça a été un incontournable. Je connais toutes ses chansons. Dans l'auto, il y a une chanson de Charles Lebois qui joue, je deviens tout à fait joyeux. Tout à fait.
C'est étonnant parce qu'on n'imagine pas que Daniel Lessard, ce journaliste très sérieux, cet analyste politique qu'on voyait sur les ondes, pouvait se permettre d'écouter du Charles Lebois ou de la musique rock.
Écoutez, je vais vous scandaliser complètement. Armand, je suis aussi un grand fan de Plume la Traverse. Et j'adorais Marjo, oui. La chanteuse.
J'aime beaucoup aussi, là. Oui, bien sûr. Alors, tout cela pour dire que, dans le fond, on peut avoir une image, mais au-delà de l'image, il y a l'humain. Il y a celui qui vit des sensations, des émotions. Et ouais. C'est ce que nous sommes tous.
Ce que j'ai toujours essayé d'éviter, c'est d'essayer de faire croire aux gens que je suis ce que je ne suis pas. J'aime Charles Lebois, j'aime aussi la musique classique, mais je ne vais pas me vanter d'écouter telle et telle symphonie de Beethoven ou de Mozart. Mais je n'ai pas de problème à dire aux gens, oui, j'aime Charles Lebois, j'aime même certaines chansons de musique country, oui. Les vieilles chansons des sultans, des Wolofs des années 60.
Vous êtes très éclectique dans vos choix.
Très, très, très. J'aime tout, sauf le jazz, auquel, tranquillement, j'essaie de m'habituer, mais je dois t'admettre que...
Oui, ça arrive. Tout à fait, ouais. Ouais, ça arrive tard, généralement, le goût pour le jazz.
Ouais.
Écoutez, vous aimez beaucoup de choses, mais il y a un chanteur québécois, Jean-Pierre Ferland, qui, lui, à une certaine époque, n'aimait vraiment pas les journalistes. Il en a même fait, il en a même fait une chanson.
Eh oui, oui.
Très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour. Tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont autant d'élan moral qu'ils ont de pages à leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal, tout dépend de leur avantage. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations, vous coupant deux ou trois tronçons. Ils vous tuent, puis ils vous encensent. Ils racontent ce qu'ils ont su d'un autre qui a bien connu, un autre qui a très bien vu. Quand ils n'ont rien su, ils inventent. Quand ils ont lu Tintin Brévet, quand ils ont écrit quatre vers, on les consacre reporters dans la mode ou la politique. Quand ils n'ont assez d'idées, on les met aux chiens écrasés. Quand y'en a plus, ils sont mutés. On les met au rang des critiques. As-tu vu mon papier tout frais? C'est presque du papier monnaie. Ce que tu connais, Bossuet, tout à fait moi la légende. C'est pas du mou, c'est du brutal. Et puis ça fera original. J'avais mal à mon piédestal. Quand on monte, lui, il faut descendre. Pour les comprendre, il faut les voir le moins souvent, mais certains soirs, surtout quand ils jouent les plus soirs, aux soirées des grandes premières. Le bras pendant les plus concours, le programme sur les genoux, il feignent de comprendre tout, mais s'ennuie comme au cimetière. Et leur critique terminée, il faut les voir.
pouvoir se corriger, mais en toute objectivité, comme s'ils avaient payé leur place. Et le lendemain au matin, vous la trouverez dans un coin, une à la deux, mais deux fois rien. Question de goût, question d'espace. Quand on sait tout, on ne sait rien. Je sais peu, mais je le sais bien. J'ai appris dans un quotidien toutes les lois fondamentales. J'ai appris ce que je savais. Que moins c'est faux, le plus c'est vrai. Que plus c'est gros, plus c'est épais. Que moins c'est blanc, le plus c'est sale. Quand vous écouterez ma chanson, ne sautez pas aux conclusions. Sachez que vous faites exception et que gagner sa vie, c'est triste. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès. Quand je deviendrai journaliste.
Les journalistes, Jean-Pierre Ferland. Ça me fait toujours sourire quand j'entends cette chanson, mais ça relève d'une autre époque, peut-être.
Oui et non, Armand. Aujourd'hui aussi, c'est très difficile d'être journaliste. Hein. Il y a tous ces mouvements de woke, d'extrême droite, qui tapent sur les journalistes sans arrêt, qui essaient de ridiculiser leur travail, de dire qu'ils n'ont pas de crédibilité. C'est très difficile d'être journaliste aujourd'hui. Moi, j'aimerais beaucoup mieux subir encore les foudres de Jean-Pierre Ferland que celles de tous les imbéciles qui règnent dans les médias sociaux.
Est-ce que c'est inquiétant pour vous, cette menace à la démocratie?
Oui. Trump a légitimé tous ces gens-là, dont on n'entendait jamais parler auparavant, qui, pour la plupart, ne savent pas écrire, mais juste assez pour écrire les bêtises qu'ils écrivent. Et ce qui a amplifié tout ça aussi, c'est l'extrême morosité qui existe depuis le début de la pandémie, de la COVID. Beaucoup de gens se sont renfermés sur eux-mêmes, se sont opposés au gouvernement qui voulait leur imposer des régimes de vaccins, etc. Et, bon, non seulement ils s'en sont pris au gouvernement, mais aux messagers qui étaient les journalistes, parce que tant les gouvernements improvisaient au début, Armand, que ce soit à Québec, à Toronto, parce que je vis en Ontario ou au fédéral, tu sentais que ces gens-là improvisaient. Et je les comprends aussi, c'était pas facile, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de guide, on fait quoi là, pendant une pandémie? Mm-hmm. Tout le monde improvisait un peu, il y a eu des mesures qui ont été prises qui n'auraient peut-être pas dû être prises. Il y a beaucoup de gens qui, bon, voulaient rien savoir de ces mesures-là, même si tu leur disais, ben, les hôpitaux débordent, ce personnel-là est débordé. Non, moi, c'est ma liberté absolue. Il faut les comprendre, il ne faut pas les blâmer, sauf que ça a créé un climat épouvantable et c'est encore aujourd'hui la même chose.
Est-ce que vous êtes pessimiste face à l'évolution de la situation mondiale et je dirais aussi face à la profession journalistique, parce qu'on voit quand même cette tendance à la polarisation, même au sein des médias, particulièrement aux États-Unis, où on a des réseaux qui sont carrément très à droite. Est-ce que tout cela ne nous laisse pas un petit goût amer?
Amer parce que, Armand, on ne peut plus discuter. Si tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, au bout de 30 secondes, il va t'enterrer de bêtises et te traiter de ci ou de ça. La discussion civilisée est devenue extrêmement difficile. T'es pour ou t'es contre, il n'y a pas de juste milieu, un peu comme pendant la guerre en Irak, quand George Bush, le fils, disait « You're with us or against us ». Il n'y a plus de juste milieu. Si quelqu'un ne pense pas comme toi, c'est automatiquement un imbécile. T'écoutes les nouvelles, puis la nouvelle ne raconte pas ce que t'aimerais entendre. Tout de suite, elle n'a pas de crédibilité. Tu ne cherches pas les arguments pour la contrarier, pour dire que ce n'est pas vrai. Tout de suite, non, c'est de la merde. Ce journaliste-là est malhonnête, etc., etc. C'est devenu un monde très, très difficile. Je regarde mes deux fils. J'ai un père sur le tard qui ont 26 et 22 ans, qui sont très optimistes, qui sont lancés dans la vie, sont en haute technologie, ça va bien, blablabla, blablabla. Il y a des choses qui les inquiètent sur la planète, surtout les conditions climatiques, les crises climatiques, ce qui nous attend au niveau de l'environnement. Moi, je suis très, très, très inquiet. Je pense qu'on a passé un point de non-retour et que le pire est devant nous et qu'il n'y a plus de solution. Eux pensent encore... Et je les admire pour ça que, bon, la technologie a réglé bien des problèmes, qu'elle va aussi régler ces problèmes-là d'environnement. J'espère qu'ils ont raison, mais je ne suis pas très optimiste.
Alors, pour vos fils, une chanson qui, à l'époque, pouvait être chantée. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile de chanter avec ces paroles. Je vous demande d'être attentifs à ce que nous allons entendre.
Je suis douce comme l'eau, et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Cette aimable invitation, Prophète Armand, à venir te saluer à l'occasion de ton passage à son émission. Daniel, tu nous manques. On ne te voit plus à la télévision. Je ne peux plus t'entendre à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Puis on est fou, puis on lit. On ne peut plus t'entendre non plus à l'émission de Catherine Perrin. Pourtant, il y aurait tellement, mais tellement à dire. Bon, je parle pas seulement sur la scène internationale, là, parce qu'au-delà de l'Ukraine, hein, il y a plein de pays où les choses où, qui sont en état de belligérance, dans je ne sais combien de pays, je te dirais qu'il y en a autant qu'il y a de lettres de l'alphabet. Et puis, chez nous, au Canada, c'est une situation qui est quand même parfois inquiétante avec des vents des États-Unis antidémocratiques qui soufflent vers chez nous. Enfin, écoute, je maintiens quand même qu'au Canada, nous sommes toujours dans un pays privilégié par rapport à tout ce qui nous entoure en ce moment. Bon, Daniel, je n'oublie pas les nombreuses années de franche complicité que nous avons partagées à Radio-Canada. On n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. On a vraiment vécu des périodes, des époques passionnantes, de très grande exubérance. On ne se voit plus, ce qui ne veut pas dire que l'amitié n'y est plus. Bien au contraire, tu peux compter sur mon amitié, Daniel, dont je vais te laisser au moins aux mains d'Armand, qui saura faire ressortir ta très grande sagesse. Alors, je te salue très amicalement, Daniel. Et puis, Armand, merci de cette belle invitation. À bientôt.
On a bien sûr reconnu votre ancien collègue, Bernard de Rome, qui tenait absolument à vous rendre ce petit hommage.
Écoutez, c'est, c'est très émouvant, mon cher Bernard. Écoutez, ça a été les plus belles années de ma carrière. Toutes ces années, j'ai passé sur la colline parlementaire, en direct avec Bernard de 1981 jusqu'à quoi, dans 2000. Enfin, dans tout cas, au début des années 2000, on a tout fait, les élections fédérales, les leaderships, les référendums, les jugements de Cour suprême. Et ça a été une collaboration un peu difficile au début, le temps de s'adapter l'un à l'autre, mais ça s'est très, très rapidement, on a développé cette relation-là. Je savais quand je devais intervenir avec lui, je savais quand il tournait en rond, puis que je devais l'aider à retomber sur ses pieds, ou quand il m'arrêtait parce que, bon, je dérapais.
Sentait cette complicité.
Oui. J'avais une confiance totale en lui, et c'est la même chose de son côté. On se préparait toujours assez bien. Bernard aime beaucoup discuter, et on discutait beaucoup. On allait, quand il était en ville, ou quand on travaillait ensemble, sur des événements, on allait toujours manger ensemble après. On se voyait la fin de semaine en amis. On s'est perdu de vue, là, depuis, mais ça a été mon héros, mon modèle et mon ami, et c'est encore mon héros, mon modèle et mon ami.
C'est curieux parce que je me souviens, je fais juste une petite parenthèse, en début de carrière, je me retrouve journaliste à CBLFA à Toronto et ensuite à CBGA, Gaspésie-les-Îles. Et comme vous le savez, parfois les reporters régionaux avaient la possibilité d'envoyer des reportages au national quand les histoires avaient un caractère d'envergure nationale. Et il m'est arrivé à quelques reprises d'envoyer des reportages au national. Et Bernard de Rome, qui était présentateur du téléjournal, prenait à chaque fois la peine de faire un coup de téléphone et de nous dire, de me dire, ben, écoute, tel angle, si tu pouvais l'apporter ou l'amener sous cet angle-là, ce serait peut-être plus accessible à l'ensemble des auditeurs ou des téléspectateurs. Mm-hmm. Et pour moi, qui était un jeune journaliste, c'était vraiment le conseil d'un grand mentor.
Oui, c'était une qualité, une très grande qualité, parfois un défaut de Bernard, parce qu'il voulait tout savoir, à la virgule près, et quand les rédacteurs qui travaillaient avec lui soumettaient un texte, c'était très rare, sinon jamais il acceptait du premier coup, à ça, on devrait peut-être le changer, je veux dire différemment, etc. Et c'est lui qui était qui avait le mot final, c'est lui qui allait en nombre, c'est lui qui avait l'air fou si c'était pas bon.
Oui.
Mais c'était toujours fait de façon, tu sais, c'était jamais brusque, il envoyait jamais personne promener, jamais traiter personne d'incompétent, mais il voulait tout savoir.
Et disons, souvent, oui.
Ouais, souvent il m'appelait sur un topo, dans quelle direction tu vas, et il allait me dire, bon oui ça va, c'est beau dans l'ensemble, mais peut-être ce petit détail-là que tu pourrais ajouter ou ça.
Exact.
Et écoutez, ça contribuait à faire encore un meilleur reportage.
Oui, et un être excessivement généreux, on peut le dire sans aucune flagornerie, Bernard n'a jamais été remplacé. Bien sûr, il y a encore d'excellents présentateurs et animateurs de bulletins d'information, mais Bernard avait son style. Il a donné une notoriété à l'information et personne n'a pu vraiment remplacer Bernard. On lui succède, mais on ne le remplace pas.
Bien dit.
On va entendre une pièce italienne. Ensuite, on poursuivra sur ce que vous aviez amorcé au tout début de l'émission sur vos romans. Là, on va entendre une pièce du compositeur italien Giovanni Legrandi. C'est une pièce baroque. Il a vécu au 17e siècle. Il est considéré comme un jalon important de l'école instrumentale vénitienne entre les Gabrielli et Vivaldi. Malheureusement, son œuvre reste encore peu connue, malgré le fait qu'il ait été un des musiciens les plus renommés d'Europe l'Europe à son époque. Sa production était très grande qualité, que ce soit dans le domaine de l'opéra, de la cantate, de la sonate. Il a sûrement eu une influence sur plusieurs compositeurs, dont Vivaldi. Alors, de Giovanni Legrenzi, Daniel, on va écouter L'Ave Regina Caelorum, opus 6. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cet aspect religieux. Mais c'est interprété ici par une grande de chez nous, Marie-Nicole Lemieux, et Philippe Jaroussky, ainsi que l'ensemble Atta Tercé. De Giovanni Legrenzi. On vient d'entendre cette pièce baroque et notre invité du jour, Daniel Lessard. On terminait tantôt en parlant de cette grande complicité avec Bernard de Rome. Maintenant, la complicité, vous l'avez probablement établie avec votre plume, parce que votre plume est devenue votre grande complice. Vous me disiez que ce dont vous êtes le plus fier, ce sont sans aucun doute ces romans qui ont pour socle l'histoire. Mais vous avez aussi écrit... Est-ce qu'on peut appeler ça des polars?
Oui, Péril sur le fleuve, moins. Péril sur le fleuve, c'est lié à l'environnement, détournement d'un bateau qui veut faire sauter le pont de Québec. Oui, c'est des polars. On peut appeler ça des polars. Mais c'est pas aussi... Il y a des polars où il y a un meurtre à chaque page. Moi, c'est pas mon cas. C'est beaucoup plus humain. Mais il y a toujours une intrigue, comme dans le dernier... Crime parfait. Il y a un gars qui meurt au début, puis il y a deux ou trois autres qui meurent en cours de route. C'est la criminalité, et c'est inspiré beaucoup de ce qui se passe. Surtout dans le dernier, je me suis inspiré beaucoup de deux choses. Toute la question du profilage racial, mm-hmm. et toute la question des gens avec des problèmes de santé mentale avec lesquels la police doit composer tous les jours, même s'ils ne sont pas toujours préparés pour ça.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Léo Ferré, avec le temps. Les romans dont vous faisiez mention avant qu'on entende Ferré, c'est aussi là une complicité entre deux femmes, cette sergente détective, Sophie Comtois, et puis la journaliste.
Marie-Lune Beaupré.
Oui.
Oui, mon, au départ, moi, je voulais faire des romans policiers où c'est la journaliste qui finissait par tout découvrir et suggérer aux policiers d'arrêter des coupables. Mais je me suis dit, c'est pas très réaliste, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et il y a un crime qui est commis, il y a des enquêteurs qui se présentent. Et moi, j'avais décidé que ce seraient deux femmes parce que j'aime beaucoup les femmes, puis parce que les femmes sont beaucoup plus, beaucoup plus humaines que certains hommes. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette complicité entre policiers et journalistes. Cette relation-là n'est jamais facile, comme la relation de confiance que tu dois établir avec des politiciens, c'est jamais facile, mais tu as besoin de ce genre de sources-là, tu as besoin de gens qui te racontent exactement ce qui se passe pour pas que tu aies de l'air fou et que tu racontes n'importe quoi. Alors, avant d'avoir un ministre comme source, puis tu as besoin de ça quand tu fais de la politique, parce que c'est la seule façon d'aller au cœur des débats, et des députés aussi, mais c'est la même chose dans les affaires criminelles. Si tu as une très bonne source à la police de Montréal ou à la Sûreté du Québec, ça va faciliter grandement les choses, et tu vas avoir ta nouvelle en première page de la presse le lendemain, ou en tête du téléjournal. Alors, c'est important. Mais ça reste une complicité pas facile. Les deux miennes, Comtois et Beaupré, sont des êtres qui ont leurs problèmes personnels et qui vivent des situations extrêmement difficiles à travers ça. Alors, c'est un peu ça l'esprit de mes romans policiers. L'enlèvement, par exemple, est basé sur l'histoire de la fillette de Granby, la maltraitance des enfants. Oui. Tout tourne autour de ça. Il y a deux enfants qui sont enlevés par une maîtresse d'école qui est tannée de voir arriver le matin le ventre creux, sale, pas lavé, etc., etc., et qui décide de les ramener chez elle un soir et de les garder jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ça n'a pas d'allure, que c'est un crime qu'elle a commis. Bon, elle est arrêtée, mais... le juge va l'exonérer parce que ça a été fait pour des bonnes raisons. J'exagère un peu ce bout-là, mais ça fait un bon roman. C'est un peu ça. Le roman policier, le roman historique, t'es obligé de faire beaucoup de recherches. Si ton action est située, comme dans Maggie, le premier, c'est en 1914-1915, là, il faut que tu aies exactement le contexte de 1915. Il n'y avait pas d'électricité à Saint-Benjamin. Les chemins n'étaient pas déblayés. Souvent, il n'y avait pas de chemin, etc., etc. Un paquet de cigarettes coûtait 2 cents. Donc, tu as besoin d'avoir tous ces détails-là, mais tu as besoin aussi de savoir quel était le climat politique de l'époque, quel était le climat social de l'époque, pour pas avoir l'air d'un imbécile. Tu sais, tu fais rentrer un personnage dans une salle, puis il allume la lumière avec un commutateur. Oui. Ça n'existait pas en 1915.
Alors, climat de l'époque, on va peut-être aussi faire état d'une chanson qui a fait époque et qui évoque une certaine époque doucereuse en famille. C'est la proposition que vous nous faites, cette belle chanson de Claude Léveillé qui a pour titre...
Frédéric.
Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche? Autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul, t'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, bon ça fait plus sérieux. Perdre un coup de vieux et tout ça, ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après, après, ce fut la fête, la plus belle des fêtes. La fête des âmes ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie, à du bel arlequin. Tu vois qu'on t'a menti, écroulé nos châteaux, adieu nos clairs de lune. Après tout, faut ce qu'il faut pour s'en tailler une. Une vie de bon vivant, une vie sans argument. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés aux 80. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman nous servait. Tu te rappelles, Frédéric? Salut!
Frédéric, proposé par Daniel Lessard, notre invité. J'ai le goût tout de suite d'enchaîner avec les deux prochaines chansons que vous nous avez proposées, celles de Daniel Guichard et de Charles Aznavour, parce que ça aussi, ce sont des chansons très marquantes. La tendresse, ouais. Et Reste.
Ouais. Reste, c'est probablement la plus belle chanson d'amour qui existe d'Aznavour, qui est très peu connue. C'est très court, moins de 2 minutes, mais ça encapsule merveilleusement la force d'une relation amoureuse où les deux sont vraiment dans le coup. La tendresse, c'est ce qu'il y a après l'amour, avec Daniel Guichard, et c'est une chanson qui l'exprime très, très bien. La tendresse, ça ne veut pas dire que tu élimines tout le reste, que tu vas te chicaner avec ton ex-conjoint. C'est ce qui reste, c'est ce que vous avez vécu, ce qui reste entre les deux quand l'amour n'est plus là.
La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse. Reste encore avec moi sur mon corps, dans mes bras enlacés, essoufflés, assouvis, étourdis. Reste au chaud
alanguis dans l'enclos de la nuit. Sur mon cœur, sans pudeur, éperdu, presque nu, reste ainsi sur ta fin. Tendu reste là, sans un mot sur ta joie, sur ma peau, dans l'espoir, dans le noir, jusqu'au jour, mon amour.
Daniel Lessard était notre invité aujourd'hui. Daniel, il ne faudrait quand même pas oublier de mentionner que vous avez publié un dernier roman l'automne dernier, en octobre, je crois, qui a pour titre « Crime parfait ». On se retrouve encore dans ces histoires policières.
Exactement. Ça se passe dans l'Outaouais. C'est l'ancien copain de Sophie Comtois qui est retrouvé mort dans le terrain de stationnement du Walmart de Gatineau. Qui l'a tué et pourquoi? Il faudra lire le roman pour le savoir.
C'est bien dit. Est-ce que vous êtes déjà en chantier pour un prochain roman?
Oui. Ce que je suis en train de faire, et c'est très amusant, j'ai un plaisir fou. J'ai plein de petites histoires que j'avais en tête pour en faire des romans, pour me rendre compte finalement qu'il n'y a peut-être pas assez de matière pour faire des romans. J'ai décidé de préparer un recueil de nouvelles, de courtes histoires sur plein de sujets importants. Toutes mes histoires sont basées sur de faits véritables, comme pendant la Prohibition, comme pendant l'exode des Canadiens français aux États-Unis, comme pendant la grande crise du début des années 30. Il va y en avoir une quinzaine. Et je suis en train de faire cette recherche-là en ce moment et de découvrir plein de choses absolument incroyables.
Alors, ça va être à suivre. Écoutez, Daniel, avant qu'on se quitte, je dois le dire au nom de probablement beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, on s'ennuie de vous, on s'ennuie de votre rigueur, on s'ennuie de vos analyses. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'analystes pour décortiquer les enjeux qui sont vraiment devenus plus que complexes et qui font menace souvent, comme le disait Bernard tantôt, à une forme de démocratie. Quand on voit le vent du sud qui souffle vers nous, on peut parfois être inquiet. On va vous souhaiter de la santé. Encore Merci. Beaucoup de romans. Puis si vous avez le Merci. Goût de revenir au journalisme, n'hésitez pas.
Je vais te dire tout de suite que non. Mais merci de l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi, mais non, pas au journaliste quotidien.
Un grand plaisir que de vous avoir reçu, Daniel. Cette émission a été réalisée et animée par la personne qui vous parle, Armand Dubois. Et on va se quitter, Daniel, avec une très, très belle chanson que vous nous avez proposée d'Aznavour hier encore. Mais j'ai une petite surprise parce qu'on va entendre la dernière version enregistrée par Charles Aznavour avec Elton John.
Ah oui, wow!
À la prochaine, merci et bon succès pour la suite des choses.
Merci Armand, à très bientôt.
Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de la mort. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps.
J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre.
Et encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même à le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien, rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Pas ma faute, je fais la vie autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent.